Nous en sommes encore à remplir le tableau de Mendeleïev de l'intelligence collective, disait il y a 2 ans l'éthologue Guy Terola. Et depuis 2 ans, les cases se remplissent les unes après les autres. Une équipe du CNRS a mis au jour fin janvier les mécanismes de la construction du nid par une colonie de fourmis. Fin janvier toujours, les gènes impliqués dans la coopération toujours chez la fourmi ont également été identifiés. Ajoutez à cela des publications sur la trophallaxie, la communication par la nourriture ou encore sur l'outillage. Bref, autant dire que la recherche en entomologie sur l'intelligence collective est le sujet du moment. Intelligence des insectes, est-ce que l'union fait la force? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de vous présenter nos 2 invités du jour, peut-être un tout petit mot pour vous dire que dans 2 semaines, le samedi 25 février, vous êtes tous autant que vous êtes conviés au forum L'année vue par les sciences, un forum qui se tiendra tout au long de la journée, donc de 10h à 18h dans le grand amphi de la Sorbonne. On y parlera entre autres d'eau dans le système solaire, des liens entre science et politique à l'ère Trump et en année électorale pour la France, du basculement vers la démocratie des algorithmes, de l'intelligence de nos intestins et pour finir, eh bien c'est Hubert Reeves en personne qui assurera la leçon de clôture. Voilà tout ce qu'il vous reste à faire et de vous inscrire. C'est gratuit mais les inscriptions sont obligatoires et il faut aller pour cela sur le site franceculture.fr. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin. Ceci étant dit, cela faisait longtemps que j'avais envie de consacrer une émission entière à l'entomologie. C'est donc chose faite aujourd'hui. Nous allons discuter des phénomènes d'intelligence collective chez les insectes avec nos 2 invités. Vincent Alboui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entomologiste, naturaliste, président d'honneur de l'Office pour les insectes et leur environnement. Vous avez de nombreuses publications. Je vais citer pour le moment l'une des dernières, Les insectes, histoire remarquable, aux éditions Delachaux et Niestlé, avec de superbes illustrations de François Desbordes. On peut parler aussi du guide des curieux de nature en 150 scènes, toujours chez Delachaux et Niestlé. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Touraine à Tours, avec Anne-Geneviève Bannière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, directrice de recherche CNRS au sein de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à l'Université de Tours. Vous pouvez nous suivre évidemment comme tous les jours en direct sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Nous pouvons donc commencer cette discussion qui va s'avérer passionnante sur l'entomologie et l'intelligence collective des insectes. Et pour commencer, est-ce que 2 ans après ce que déclarait Guy Terola tout à l'heure, ce que je citais, est-ce que vous avez le sentiment que plusieurs cases du tableau de Mendeleïev de l'intelligence collective ont été remplies ou est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire selon vous, Anne-Geneviève Bannière?
Eh bien, moi je suis un petit peu gênée par le mot intelligence, parce que c'est vrai que l'intelligence, elle se rapporte très souvent à une fonction mentale qui est plus humaine. Et je sais qu'il y a encore quelques jours, sur une autre antenne, c'était sur France Inter, on parlait d'intelligence artificielle et que c'était très discuté. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est presque une discussion philosophique, c'est ça qui est un peu complexe. Mais peut-on dire que les insectes sont intelligents? Et moi, qui effectivement suis spécialiste des insectes sociaux, je dirais que oui, ils ont une forme d'intelligence, puisqu'ils sont eux sociaux et qu'ils forment un tout. C'est la société d'insectes qui est un individu intelligent pour moi. Voilà, mais je vais peu vous parler de fourmis, hein, à la différence de ce que vous avez dit au tout début, parce que je ne suis pas une spécialiste des fourmis, mais plutôt des termites.
Et bien, on parlera aussi des termites, des abeilles, des guêpes, de tous ces, ces insectes sociaux. Mais c'est intéressant ce débat que vous soulevez, Anne-Geneviève Bannière, puisque c'est l'un des débats que nous allons essayer de résoudre dans l'heure qui vient. Est-ce qu'il faut effectivement parler d'intelligence collective? Est-ce qu'il faut parler de sociabilité? Quels seraient les termes qui vous semblent les plus appropriés, Vincent Alboui?
C'est compliqué. D'autant plus compliqué que finalement chacun mettant dans le mot intelligence ce qu'il veut. C'est déjà difficile, deux personnes discutant entre elles. Il faut d'abord se mettre d'accord sur le contenu de l'intelligence. Ce qu'on veut voir, c'est qu'il y a deux extrêmes en quelque sorte quand on parle des insectes sociaux. Il y a l'extrême, je dirais complètement dépassé maintenant, mais qui survit encore beaucoup, qui est les insectes sont intelligents comme nous. Ça donnait, par exemple, au début du XVIIIe siècle, un entomologiste dont j'ai oublié le nom, mais qui, voyant les bourdons se réveiller le matin avec un individu qui commençait à battre des ailes, disait « c'est le sonneur », un peu comme dans les monastères, il y a un moine qui sonnait, donc c'est le sonneur qui réveille les autres. Donc il anthropisait totalement le comportement. Réaumur au mur a montré qu'en fait, il y a toujours un bourdon qui se réveille le premier, c'est jamais le même, et comme ils ont besoin de réchauffer leurs muscles avant de s'envoler, ils commençaient à faire vibrer les ailes, etc. Puis dans l'autre sens, on a eu... Alors tout est de l'instinct, il y a rien d'intelligent chez l'insecte, tout est inné, rien n'est appris, et puis avec les fameux tropismes, c'est-à-dire que il y a des insectes qui sont attirés par la lumière, donc le phototropisme positif, d'autres qui sont qui fuient la lumière, etc. Et tout pouvait s'expliquer par des réactions comme ça, un stimulus, une réponse. Et ça balance toujours entre les deux. Et maintenant, par exemple, pour les fourmis, on a le terme d'intelligence collective qui revient. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui disent les fourmis, c'est merveilleux, on peut faire des algorithmes pour les robots. Donc on retombe dans l'insecte-machine avec le robot. Donc ça oscille en permanence. Et à mon avis, c'est pas au centre, mais c'est peut-être ailleurs. Mais on peut pas parler effectivement d'intelligence comme on parle d'intelligence humaine.
Alors, vous avez parlé, Anne-Geneviève Bagnère a parlé tout à l'heure d'insectes sociaux. On va essayer de définir, parce que finalement, il y a une gradation tout de même qui a été faite en entomologie. On parle de grégarité, d'insectes subsociaux et d'insectes eusociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces trois catégories, Anne-Geneviève Bagnère?
Alors, les eusociaux, ça regroupe tout ce qui est fourmis, abeilles et guêpes, guêpes sociales, abeilles sociales, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les guêpes ne sont pas sociales et toutes les abeilles ne sont pas sociales.
Donc alors que toutes les fourmis le sont.
Alors que toutes les fourmis le sont, et puis ça fait partie de l'ordre des hyménoptères, mais il y a un autre ordre d'insectes qui est aussi eusocial, c'est les termites. Qui sont aussi des isoptères ou qui se rapprochent des blattes et qui sont eux aussi tous eusociaux. Voilà, en gros, c'est quand même ces quatre types d'insectes qu'on appelle eusociaux. Et après, il y a effectivement les sociaux, les grégaires, comme les forficules, les blattes, ceux qui ont une vie familiale, une vie de groupe. Voilà. Mais moi, ma spécialité, effectivement, c'est les insectes eusociaux.
Quelles sont les différences que l'on fait entre grégarité, subsocialité et eusocialité, Vincent Albouy?
Alors, le socialite, en fait, c'est une gradation. On peut montrer des exemples allant de l'insecte qui vit tout seul à celui qui vit en société. Mais la société parfaite, c'est là où les générations se chevauchent. Et là aussi où il y a une très forte division du travail, avec notamment la reproduction réservée à un ou quelques individus, etc. Avec des fois des différences morphologiques. Chez les termites, c'est très marqué, des différences morphologiques dans la fonction, les soldats, les ouvriers, etc.
On l'a dit, hein, les insectes sociaux ne sont qu'une infime catégorie de la population d'insectes. Elles représentent 2% de l'entomodiversité, mais, et c'est ça qui est très intéressant, elles représentent 75% de la masse. C'est-à-dire que finalement, ces insectes sociaux ont une sorte d'avantage écologique gigantesque par rapport à l'extraordinaire diversité que nous ne connaissons pas d'ailleurs en entier des catégories entomologique. Anne-Geneviève Bagnère.
Oui, je crois qu'effectivement il y a eu un calcul qui a été fait pour la masse des fourmis, donc j'avoue que j'ai un peu oublié le nom, mais c'était assez sidérant par rapport à ce que nous, humains, on est sur Terre, et ça dépassait largement, et effectivement si on ajoute tous les autres insectes, termites, abeilles et guêpes, il est vrai que ça représente une masse énorme, et en particulier dans les zones tropicales, par exemple.
Vincent Albouy.
Pour tempérer un peu ce propos, en fait, si on intègre non pas que la biomasse qui vit à la surface du sol, mais aussi celle qui est dans le sol, alors là, c'est les vers de terre qui battent tout le monde et qui sont absolument pas sociaux. Donc, voilà.
D'accord. Mais malgré tout, sur les insectes sociaux représentent quand même tout de même une, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une sorte de victoire écologique par rapport aux autres types d'organisation sociale des insectes?
Ah oui, moi je pense que le principal atout des sociétés d'insectes, c'est qu'elles manipulent comme nous leur environnement, et c'est ça qui leur donne une énorme force. Les termites peuvent vivre dans un endroit du Sahel, dans des endroits du Sahel où, parce qu'ils vont puiser l'eau en profondeur, et il y a peu d'autres espèces qui peuvent rester là. Enfin, je pense que Anne-Geneviève pourrait développer ça.
Oui, Anne-Geneviève Bagnère.
Oui, pour reprendre effectivement, les vers de terre vivent sous terre, mais les termites aussi.
C'est vrai.
Donc, mais par spécialité, en plus, c'est les termites souterrains. Vous voyez, ceux que nous avons en France sont tous des termites souterrains. Ils vivent sous terre et ils forment des colonies qui peuvent faire 1 à 2 millions d'individus. Donc, vous voyez, c'est. Jamais. Mais il est vrai que c'est assez. Bon, on trouvera des fourmis dans des zones très froide, hein, jusqu'en Suède, presque en Arctique, et puis dans des zones très chaudes. Ça, c'est sûr. Les termites, on ne les trouvera pas dans des zones froides, mais par contre, on les trouve quand même dans une grande partie du globe. Mais ce qui est sidérant, c'est qu'effectivement, ils peuvent s'adapter de façon extraordinaire, parce que, par exemple, vous allez en Australie, dans un parc qui s'appelle le Leech Park, qui est au sud de Darwin, et vous trouvez des termites qu'on appelle les termites magnétiques, qui sont capables de faire des termitières qui ont, on dirait, des carnaques, c'est-à-dire qu'ils orientent leur nid du nord au sud pour justement avoir le soleil le moins possible sur leur termitière. Et donc voilà, c'est leurs constructions qui sont assez extraordinaires, qu'ils adaptent suivant l'endroit où ils sont. Et bon, les fourmis, les abeilles et les guêpes sont aussi capables de faire des constructions assez, assez incroyables également. Hein.
Et en termes de schéma évolutif, on peut aussi signaler que les fourmis sont les seuls insectes, arrêtez-moi si je me trompe, Vincent Albouy, qu'on retrouve absolument partout sauf en Antarctique. C'est-à-dire sur tous les continents?
Oh non, il y a quand même beaucoup d'insectes qu'on retrouve un peu n'importe où, mais par rapport aux autres insectes sociaux, c'est vrai que c'est les fourmis qui ont la plus large répartition mondiale et qui se sont adaptées à des conditions les plus extrêmes dans les deux sens, on va dire.
Et une dernière question avant d'examiner ces différents types d'insectes sociaux et leur structure, ce qui les caractérise et ce qui les différencie. Est-ce qu'on peut dire, comme le disait tout à l'heure d'une certaine façon Anne-Geneviève Bagnère, qu'une colonie d'insectes sociaux est comparable à une forme de super-organisme? Vous approuvez cette formulation, Vincent Albouy?
C'est une théorie qui se discute encore, mais bon, c'est vrai qu'il y a des arguments intéressants par rapport à l'individu qui n'est plus qu'une cellule du super-organisme avec des organes. L'organe de reproduction, c'est la reine ou les reines quand il y en a plusieurs dans certaines colonies. L'organe de défense, c'est les soldats, etc.
Qu'en pensez-vous, Anne-Geneviève Bagnère? Est-ce qu'on peut parler de ces colonies comme d'un super-organisme, ou est-ce que c'est...
Alors... Ouais, il est vrai que bon, quand on regarde une ruche, on peut penser, parce que effectivement il y a dedans une centaine d'individus et ça fonctionne vraiment comme un super organisme autour de cette reine qui est au centre de la ruche. Mais il est vrai que par exemple il y a des sociétés de fourmis qui sont formées d'une société des fois avec que 3-4 individus. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire que ça peut être un super organisme. Mais bon, par contre, quand vous avez une colonie qui fait plusieurs milliers d'individus et que malgré tout, ça fonctionne parce qu'elle communique, puisque moi, bon, mon expertise, c'est la communication chez les insectes, tout ça fonctionne grâce justement à cette communication collective.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h15, vous écoutez France Culture, nous parlons d'intelligence collective. Alors nous ne parlons plus vraiment d'intelligence collective, nous parlons de sociabilité chez les insectes sociaux avec Vincent Albouy, entomologiste et naturaliste, et en duplex depuis Tours avec Anne-Geneviève Bagnère qui est biologiste. Donc dans ces insectes sociaux, on parle donc des fourmis, des guêpes, des abeilles et des termites. Quels sont les grands points communs dans leur organisation? On a entendu plusieurs choses, hein. On sait que voilà, on parle de ruches ou de nids, on parle de reines, de soldats, d'ouvriers. Est-ce que il y a des grands traits qui sont communs à toutes ces espèces, Vincent Albouy?
Allez, Les traits communs, c'est la reproduction donc qui est confiée à un individu ou quelques individus, le fait que ce soit pas des sociétés mais des familles en fait, parce que toutes les abeilles sont sœurs, enfin il y a une mère et beaucoup de sœurs, sauf au départ de l'essaimage où il y a la reine est aussi sœur des, enfin si c'est un essaim secondaire d'ailleurs, enfin bref, mais c'est des relations familiales plus qu'une société comme les sociétés humaines. Il y a vraiment des, surtout que maintenant on commence, au moins pour les abeilles, je connais pas pour les termites, mais au moins pour les abeilles on commence à s'intéresser à la génétique, au fait que comme il y a plusieurs pères, on se rend compte qu'il y a des clans dans la ruche qui correspondent aux demi-sœurs vraies avec les autres qui sont que un quart de sœurs. Enfin voilà, il y a tout cet aspect là qui est fondamental. Après, dans la manière dont ça fonctionne, c'est très divers selon les adaptations et selon les modes de vie. On a quand même un fonctionnement de la termitière dans les détails qui est très différent de la fonctionnement d'une ruche ou d'une colonie de fourmis.
Anne-Geneviève Bagnère, sur ces grands points communs, qu'est-ce qu'on peut rajouter des choses, ou sur les grandes différences, si vous voulez,
Justement, je suis là pour aller dans le sens inverse. Tant qu'à faire, il faut s'amuser quand même.
Hein. Oui.
pour moi, le plus grand point commun, c'est l'altruisme. C'est quand même justement le fait que les individus se dédient à la société elle-même, que justement l'altruisme, c'est le don de soi pour l'ensemble de la colonie. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est commun. Et par contre, justement, pour contredire exactement ce que Vincent Albouy vient de dire, ben justement, moi, je travaille sur des termites qui ne sont pas du tout comme ça des familles, puisque en particulier, je travaille sur des termites invasifs qu'on a fort nombreux en France, par exemple, et même en Touraine et même à Paris. Eh bien, ils ont de nombreux sexués, de nombreuses reines et rois qui sont pas forcément apparentés, mais qui forment ce qu'on appelle une colonie mixte. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué, en fait, finalement. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans les sociétés d'insectes. Et ce que je viens de vous dire, ça existe également chez de nombreuses autres espèces invasives, comme la fourmi d'Argentine ou la petite fourmi de feu et tout ça. Après, c'est effectivement un peu exceptionnel. Une espèce invasive, elle est dans une situation particulière. Mais cependant, voilà, il y a des formes coloniales et des formes familiales qui sont extrêmement variées chez les insectes sociaux.
Ce qui prouve que la nature est très inventive et qu'on n'a pas fini de nous étonner. En fait, dans ces domaines-là, plus on apprend, plus on se pose de questions.
Alors, parlez-nous un peu justement, Anne-Geneviève Bagnère, des spécificités du termite par rapport aux autres espèces d'insectes sociaux. Puisque c'est déjà, les termites sont les seuls qui ne sont pas des hyménoptères comparés aux fourmis, aux abeilles et aux guêpes. Comment est-ce que s'organise une colonie de termites ?
Alors, donc, les termites qu'on appelait jusqu'à récemment isoptères, moi je continue, hein, je suis vieille école, hein. maintenant ils appellent ça blattaria, puisqu'ils mettent ça dans un super ordre avec les blattes, et donc ça serait des blattes sociales, mais bon, bref. Les termites sont des isoptères, et en fait, à la grande différence des hyménoptères, ce sont des mâles et des femelles en sexe ratio équivalent, alors que chez les hyménoptères, ce ne sont quasiment que des femelles. Les mâles sont là que pour la reproduction. Et c'est pour ça que chez les termites, il y a des couples royaux et des couples qui peuvent même vivre plusieurs dizaines d'années ensemble. Donc, et dans quand on ouvre une colonie de termites, on a autant de mâles que de femelles. Ça, c'est déjà la grande différence. Après, les termites sont en très grande majorité des formes larvaires. Donc c'est pour ça que très longtemps, il y a un ou deux siècles, on appelait ça des fourmis blanches, parce que en fait un termite, c'est une larve, et les seuls adultes, ce sont ce qu'on appelle les essaimants, qui essaiment une fois par an et qui seront le roi et la reine de façon classique de la colonie. Mais tout le reste, ils vont faire même les ouvriers, en fait c'est un nom qui est un peu falsifié, on va dire, les nymphes. À la différence des fourmis ou des abeilles ou des guêpes, ce sont tous des formes larvaires. Voilà. Donc il y a un développement différent, hein, hétérométabole. Donc les larves ressemblent à l'adulte, c'est ça que ça veut dire, hétérométabole. Un petit termite ressemble à un termite adulte. Vous voyez, à la différence d'une coccinelle ou d'un papillon, vous voyez, une chemise, une chenille, et on a autant de mâles que de femelles. Ça, c'est les grandes différences, voilà, entre les hyménoptères et les isoptères.
Et vous le signaliez aussi tout à l'heure, la différence, aussi très marquée, c'est une importante dysmorphie de la reine par rapport à ce que ça peut être, ce qui peut être le cas chez les abeilles ou les fourmis, où la reine est un peu plus grosse. La reine des termites, elle, pour le coup, est vraiment gigantesque, elle est énorme par rapport aux autres populations.
Pas chez nous.
Ah, pas chez vous.
Ah non, chez les termites africains, oui, vous cassez un gros nid de Bellicositermes, ça c'est sûr, vous savez, ces gros nids cathédrales, ils ont des reines qui peuvent faire 10 à 15 cm de long et 2-3 cm de large, et d'ailleurs, elles sont mangées des fois par les femmes qui sont stériles et qui pensent que ça va leur donner de la fertilité, ou alors elles sont grillées parce que ça, c'est une source de protéines, mais nous, les nôtres, elles sont plus modestes quand même.
Hein, d'accord, donc moins de dysmorphie.
Non, oui, effectivement, elles ont comme ça, elles sont un peu physogastres, hein, puisqu'elles sont pleines d'œufs, mais c'est pas aussi spectaculaire que les termites, par exemple, tropicaux.
Et un mot aussi sur la structure en caste, hein, vous avez évoqué différents rôles. Est-ce qu'elle peut être aussi diversifiée que chez les abeilles ou chez certaines fourmis, ou est-ce qu'il y a moins de castes, moins de rôles? Est-ce que c'est une organisation sociale plus restreinte?
Non, c'est un peu plus diversifié, ben comme Vincent le disait tout à l'heure, hein, parce qu'effectivement, il y a des différences morphologiques. Un soldat a des grosses mandibules. Bon, chez les fourmis, on dit qu'il y a aussi un peu des soldats, mais c'est pas aussi spectaculaire que les Nasutitermes qu'on trouve effectivement, par exemple, en Afrique, qui ont une espèce de nez en trompe, un nasut, qui est très spectaculaire. Donc ça, c'est le soldat. Et en fait, ce nasut, il est fait pour éjecter des toxines pour repousser ses prédateurs, ou les nôtres, par exemple, ont des grosses mandibules très visibles. Et puis après, il y a les nymphes, il y a les ouvriers dans lesquels, à travers leur cuticule, on voit le bois qui est en train de se dégrader, la reine qui est plus grosse. Voilà, il y a morphologiquement, effectivement, une différence qu'on ne verra pas forcément chez les abeilles, par exemple, où il y a très peu de différence entre un mâle, une femelle, ou les ouvrières, les récolteuses. On voit quasiment, la reine est un peu plus grosse. Mais c'est pas aussi spectaculaire.
Et un dernier mot concernant cette organisation sociale des termites. Comment se répartit, comment est décidée finalement l'organisation, c'est-à-dire la répartition des rôles au sein de la colonie? Qu'est-ce qui le décide? Est-ce que ce sont les ouvrières? Est-ce que c'est la reine? Est-ce que c'est le mâle? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est une question de nutrition, comme c'est le cas chez les hyménoptères?
Eh ben moi, le mot décide... C'est comme intelligence, ça me gêne un peu. Est-ce qu'on peut dire qu'un insecte décide
comment s'organise comment s'organise la spécification des individus? Voilà.
Voilà, nous parlons plutôt de régulation.
De régulation, alors.
Hein, d'autorégulation, effectivement. Eh bien, par exemple, au moment de l'essaimage, il va y avoir une surproduction de soldats, parce que la colonie va avoir besoin, au moment de la sortie de ses essaimants, de fabriquer des soldats pour justement protéger les essaimants des prédateurs potentiels, qui sont très souvent des fourmis, quoi. Voilà.
Alors, intéressons-nous un peu aux hyménoptères avec vous, Vincent Albouy. Quelles sont les grandes différences? On les a entendues par défaut dans ce que vient de nous dire Anne-Geneviève Bannière, mais quelles sont aujourd'hui l'organisation, justement, en structure, en caste, comment, jusqu'où peut se pousser les organisations sociales de ces différentes colonies?
Alors, chez les fourmis, on peut avoir des espèces où il y a une vraie différence morphologique avec des soldats, des ouvrières majeures, des ouvrières mineures. C'est notamment le cas les fourmis champignonistes d'Amérique du Sud. Chez les fourmis de nos régions, c'est moins spectaculaire en général. Par contre, chez les abeilles et les guêpes, on voit quasiment pas de différence. Chez les abeilles, il y a une carrière, entre guillemets. L'abeille ou l'ouvrière commence à l'intérieur du nid, elle commence par soigner le couvain, par nettoyer, par s'occuper de la reine, etc. Alors, c'est lié aussi avec le développement de certaines glandes. Quand elle s'occupe de la reine, elle la nourrit avec de la gelée royale, donc il faut que les glandes productrices de gelée royale soient efficaces, enfin soient capables de fonctionner. Après, c'est les glandes cirières qui se mettent en branle, donc là, elle va devenir bâtisseuse, etc. Et elle finit sa carrière butineuse. Donc ça, c'est la carrière sur le papier, hein, dans le code du travail. Mais après, ça se régule modules automatiquement en fonction des besoins de la société. Mmh. Et on sait, par exemple, qu'en cas d'essaimage, où il y a beaucoup de vieilles butineuses qui vont se retrouver dans les seins, qu'elles sont capables de re-secréter de la cire, parce que à ce moment-là, il y a besoin d'avoir de la cire, voire même de redevenir nourrice s'il le faut.
Mmh. Donc ça, pour les abeilles, c'est la spécialisation se passe au cours de la vie d'un individu. En revanche, chez la fourmi, ça se décide quasiment à la naissance. Comment ça se passe ?
Oui, je connais pas bien la manière de fonctionner des fourmis, mais de toute façon, c'est morphologique. Donc effectivement, c'est fixé. Et le soldat, il est soldat, il a des grosses mandibules pour défendre la colonie des ouvriers, et les ouvriers, ils ont des petites mandibules pour pouvoir facilement travailler. Enfin voilà. Mais à l'intérieur du nid, il y a aussi différentes fonctions. Il faut s'occuper de la reine, il faut s'occuper du couvain, il faut éventuellement faire pour les fourmis champignonistes de l'émeule de champignons, etc. Donc je pense qu'il y a aussi, comme pour les abeilles, une répartition des tâches qui se fait en fonction des besoins. Et s'il est, alors, l'esprit de la rue, je disais les anciens, mmh. En fait, il y a des systèmes assez sophistiqués, je dirais, de communication chimique. Là, ça va être le domaine d'Anne-Geneviève.
On va y venir dans quelques instants.
Ça marche comme ça, c'est-à-dire, en fait, c'est pas une décision d'individu, mais c'est vraiment des régulateurs chimiques qui se mettent en branle pour lisser tout ça.
Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près, puisque, comme vous le disiez l'un et l'autre tout à l'heure, ces insectes eusociaux nous renvoient l'image d'une société hyper organisée. J'ai moi-même utilisé des mots inappropriés comme décision, intelligence, alors que on voit bien qu'il n'y a pas de surintelligence ou d'esprit de ruche à l'œuvre qui déciderait pour l'ensemble, et une idée qui serait communiquée à l'ensemble de la ruche ou de la colonie, loin s'en faut. La fourmi est devenue d'ailleurs une sorte d'insecte métaphorique de la dureté à la tâche et du travail sans relâche, alors que vous allez voir que dans la réalité c'est loin d'être le cas. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous vous êtes immiscé dans un nid de fourmis, on appelle ça du journaliste embedded.
Oui, au plus près de l'action.
Au plus près de l'action pour voir comment elle s'organise.
Oui, et c'est avec Mathieu Mollet, membre du laboratoire Interaction sociale dans l'évolution de l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement à Paris que nous avons regardé la vie de ces fourmis. Dans le cadre de ses recherches, Mathieu Mollet observe les capacités d'adaptation de ces fourmis au changement climatique et à l'urbanisation, et il étudie aussi les déménagements de colonies et les comportements individuels des fourmis dans le cadre de ces déménagements. Pour ce reportage, on s'est donc concentré sur l'observation d'un petit déménagement de colonies, d'une espèce de fourmi qui répond au doux nom de Temnothorax nylanderi, une espèce de fourmi plutôt commune, mais qui pourrait nous en apprendre long sur les capacités collectives d'adaptation au fil de l'évolution.
Cette espèce, elle s'appelle Temnothorax nylanderi. Ces fourmis sont intéressantes justement parce qu'on les trouve partout, ce qui signifie qu'elles ont des capacités d'adaptation à des milieux variés. Et du coup, nous, on regarde comment elles s'adaptent à ces milieux variés et comment elles changent en fonction des milieux où elles sont. Donc notamment, on regarde en ville quels sont les caractères différents qui sont produits dans un milieu urbain par rapport à un milieu forestier, par exemple, où elles sont beaucoup plus au calme et moins perturbées potentiellement.
Est-ce que le fait que les fourmis soit des insectes qui sont dotés d'une intelligence collective, leur confère une meilleure capacité d'adaptation justement aux changements dont vous me parlez?
Alors justement, c'est un des traits qu'on regarde. On s'intéresse notamment au déménagement de ces colonies, donc qui nécessite une coordination et une émergence de comportements collectifs. Donc chaque fourmi va prendre des petites décisions individuelles sur, par exemple, le choix d'un nouveau nid. Elles vont, pour quelques-unes, sortir, aller voir les nids aux alentours, trouver lesquels sont confortables, lesquels moins confortables. Et il y a des règles qui se mettent en place, notamment le règle de quorum, où à partir du moment où des fourmis détectent que dans un des nouveaux nids qu'elles ont détecté, il y a suffisamment d'individus autour, elles vont déclencher un déménagement. Donc elles vont retourner à leur nid d'origine, prendre en charge la reine, les larves, les jeunes ouvrières inexpérimentées et emmener tout ce monde-là dans le nid qu'elles auront choisi par des règles de proportion d'individus qui ont décidé de partir.
Dans le cadre des déménagements de colonies, quels sont les points que vous allez observer en particulier vraiment ?
Donc particulièrement, on va enregistrer le nombre d'individus qui rentrent dans les nouveaux nids, mais on va aussi prendre en compte par exemple des transports d'individus. Donc par exemple ici d'ailleurs, je pense que vous pouvez voir un individu expérimenté qui transporte un petit individu juste en dessous, là, qui est pas du tout expérimenté et qui du coup se fait amené à l'endroit décidé par la colonie. On va mesurer le temps nécessaire pour que la colonie prenne la décision de commencer à déménager. On va mesurer, une fois que cette décision est prise, la vitesse à laquelle la colonie va pouvoir déménager jusqu'au nid final. Et puis, on va regarder à quel moment, pendant le déménagement, vont être transportées les larves et à quel moment est transportée la reine, qui est un peu l'élément clé de la colonie. Et en fait, on se rend compte que la reine est toujours transportée au milieu du déménagement, au moment où il y a suffisamment d'individus dans le nid d'arrivée, mais encore suffisamment dans le nid de départ, et donc elle est toujours en présence de toutes ses, enfin, une bonne partie de ses ouvrières en tout cas.
Alors revenons à cette colonie en particulier, on l'a sous les yeux et je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu voilà, ce qu'on peut observer déjà dans cette situation donnée à cette heure-ci.
Alors bon, la meilleure chose à faire c'est déjà de se mettre sous une loupe binoculaire parce que donc elles font environ 1 mm de longueur, donc c'est un petit peu difficile à voir à l'œil nu. Alors là, il y a l'intérieur du nid où on trouve la reine, tous les jeunes, toutes les larves et les ouvrières. Et puis, il y a une petite ouverture qui mène vers l'extérieur. Et là, les ouvrières partent chercher à manger, à boire. Elles jettent les cadavres d'ouvrières à l'extérieur aussi. Puis, elles ont des petits nids alternatifs là qu'on utilise pour les manips de déménagement, justement. Donc, il y a probablement des petites ouvrières qui rentrent, qui sortent dedans pour regarder ce qui s'y passe et si c'est plus confortable que leur nid de départ. Donc, c'est possible que demain, si on revient, hop, elles soient rentrées dans un autre nid. C'est vrai que nous, sur ces espèces-là, on s'intéresse essentiellement au déménagement, mais il y a d'autres comportements de groupe qui sont intéressants. Par exemple, il y a l'immunité sociale. Donc nous, on a un système immunitaire en tant qu'humain dans notre corps. Les fourmis, en plus d'avoir ça dans leur corps, elles ont une immunité sociale où il va y avoir des toilettages, des transmissions de substances de la surface d'une fourmi à la surface d'une autre fourmi. Et du coup, il y a une propriété d'immunité émergente de la colonie qui dépend non pas d'un individu, mais de la somme des comportements et des physiologies de tous les individus du nid.
A priori, voilà, c'est une fourmi lance le mouvement, les autres suivent, et plus les autres suivent, plus le mouvement est lancé, c'est une espèce de cercle.
Alors, ça dépend, il peut y avoir des systèmes d'auto-amplification, c'est par exemple le cas des fourmis qui fourragent en masse, c'est-à-dire que elles vont recruter d'autres individus pour aller chercher de la nourriture avec elles, et plus il y a d'individus qui passent et qui vont chercher de la nourriture et qui reviennent en déposant une phéromone de piste, plus les individus vont être attirés, et du coup ça va devenir une véritable autoroute de fourmis. Donc là on va vraiment avoir un phénomène qui s'amplifie. Il y a d'autres phénomènes qui sont émergents juste parce que chaque petit comportement individuel additionné aboutit à un comportement global apparent, alors qu'il n'y a pas eu de réflexion générale. Donc c'est par exemple le cas des structures de nid qui sont pas mal étudiées, où certaines fourmis vont creuser, enfin toutes les fourmis vont creuser avec un certain angle autour de leur tête, en bougeant leur tête, le substrat. Et comme toutes les fourmis font ça et qu'elles attendent de rentrer face à un substrat qui a un certain angle avec leur tête, au final elles font des galeries qui ont une certaine forme et des tunnels qui connectent les galeries à partir d'un certain angle. Et finalement on observe des nids complets qui ont toujours des galeries connectées avec des angles bien particuliers qui sont pas liés au fait que les fourmis se sont dit tiens on va creuser dans ce sens là, on y va, creuser tout droit et puis maintenant faites une loge entière. Non, en fait ces loges elles naissent juste de petits comportements de creusement individuels et de temps en temps le comportement de creusement va aboutir au début de formation d'un tunnel et donc les fourmis vont creuser ce tunnel et puis on arrive à une nouvelle loge qu'elles vont faire par petits comportements individuels. On projette beaucoup parce qu'en réalité il y a énormément de conflits dans les sociétés de fourmis. Là on parle beaucoup de comportements émergents, de coopération, mais il y a en fait beaucoup de conflits où les individus ne sont pas d'accord les uns avec les autres, ont des intérêts différents, et là on va avoir des agressions, des mises à mort, des choses comme ça. Il y a beaucoup de désordre qui peut faire émerger des conflits, qui peuvent donc être résolus à la fin, et puis évidemment du désordre qui fait aussi émerger des comportements de coopération et des comportements émergents globaux.
Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp sur ces déménagements de colonies de fourmis. Des réactions l'un et l'autre, Vincent Albouy, Anne-Geneviève Bagnère. On a entendu pas mal de choses intéressantes dont on va parler dans la dernière partie, mais beaucoup de désordre donc, qui génère du désordre, mais qui génère aussi, in fine, du fait de la proportion de ces colonies, un peu d'ordre. Anne-Geneviève Bagnère, vous souscrivez à cette définition-là?
Oh bah oui, bien sûr. C'est-à-dire une colonie à un moment, je sais pas, il y a une branche qui tombe dans une colonie, ça crée un désordre terrible, mais en fait assez rapidement, ou la colonie de n'importe quelle espèce, hein, de termites, de fourmis ou d'abeilles, elle se recréera, hein, elle tend vers l'ordre quand même, hein. Donc ça, c'est une question. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'inné, mais effectivement, il y a tout cet inné qui fait que ça tend vers l'ordre. Et puis après, il y a la partie acquise où ils acquièrent justement cette façon de construire rapidement les nids. C'est très important, l'acquis chez les insectes sociaux. Hein. L'apprentissage, l'acquis, c'est très très important.
Vincent Albouy.
Oui, c'est un mélange d'ordre et de désordre. Les colonies, chez les abeilles que je connais mieux que chez les fourmis, on a ça un peu avec les ouvrières pondeuses, c'est-à-dire qu'il y a des... Normalement, il n'y a que la reine qui pond. Des fois, certaines ouvrières se mettent à pondre et les autres ouvrières détruisent les œufs de ces ouvrières-là, voire si elles continuent, les mettent à mort. Donc, c'est pas les bisounours, les abeilles. donc voilà, mais ça marche. Et puis, des fois, d'ailleurs, il y a des abeilles pondeuses qui arrivent à masquer l'odeur de leur œuf, c'est-à-dire qui arrivent à copier l'odeur de la reine, ce qui fait que l'œuf est accepté, ce qui fait que ça donne des mâles qui ne sont pas issus de la reine, mais issus d'une ouvrière. Enfin bon, il y a des comportements comme ça. Alors, c'est à la marge, c'est pas des comportements habituels, mais on se rend compte que la société parfaite, la montre bien réglée qui fonctionne toute seule, non, c'est pas ça.
Et puis on entend aussi qu'il y a plusieurs choses, on va parler dans quelques instants d'auto-amplification, mais je le disais tout à l'heure, hein, on dit la fourmi, voilà la fable de La Fontaine, la fourmi, celle qui travaille beaucoup, qui ne fait que travailler, etc. Or, dans une colonie de fourmis, par exemple, il y a 50%, la moitié des individus qui ne font absolument rien. Et dans toutes les colonies, c'est à peu près pareil, j'imagine que c'est pareil chez les termites ou chez les abeilles, à Geneviève Bagnère.
Ouais. Oui, bien sûr, c'est normal, hein. Le million d'individus peut pas à la fois construire au même moment, hein. Donc après, est-ce qu'on peut appeler ça du repos? C'est toujours un peu difficile, hein,
C'est une mise en réserve. Pour les abeilles, par exemple, on sait que les butineuses, elles ont 800 heures de vol. Au bout de 800 heures, elle meurt à peu près, alors 800 heures à peu près. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire voler toutes les butineuses quand il n'y a rien à butiner, donc il n'y a que quelques exploratrices, et les autres attendent. Et quand les exploratrices ont trouvé des choses intéressantes, elles les communiquent, et à ce moment-là, les butineuses partent. Donc, c'est pas du repos ou du loisir ou de l'oisiveté, c'est une allocation, on va dire, rationnelle des ressources. Il n'y a rien à faire, on ne fait rien, chômage technique pour tout le monde.
Voilà. Ce qui nous amène tout doucement à notre dernière partie et au véhicule de cette information au sein des colonies, vous allez l'entendre, tout n'est que question d'amplification.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Falling off a whole empire.
Il est bientôt 16h40, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Nous parlons d'intelligence collective, ou plus exactement d'insectes eusociaux, puisque nous avons vu qu'il était complexe de définir une notion d'intelligence pour ces insectes. Nous en parlons avec Vincent Albouy, qui est entomologiste naturaliste, président d'honneur de l'Office pour les insectes et leur environnement, et en duplex depuis France Bleu Touraine avec Anne-Geneviève Bannière, qui est biologiste, directrice de recherche CNRS au sein de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à l'Université de Tours. Parlons donc maintenant, dans les 20 dernières minutes qu'il nous reste, de ces vecteurs de communication. Le premier vecteur de cette sociabilité exacerbée chez ces colonies d'insectes, c'est bien sûr un vecteur chimique. On l'a entendu, on en a parlé un peu, les phéromones. Est-ce que ce sont ces phéromones qui jouent pour toutes les espèces d'insectes eusociaux, Anne-Geneviève Bannière?
Oui, bien sûr. La définition d'une phéromone, c'est un sémiochimique qui intervient qu'au sein d'une seule espèce. Parce que très souvent, le public parle de phéromone pour parler même entre espèces différentes. Non, une phéromone, ce n'est qu'au sein d'une même espèce. Donc, effectivement, tout à l'heure, on a parlé de phéromone de piste. Mm-hmm. Je crois que c'est Mathieu qui a parlé de Mathieu Mollet par ici. Après, il y a les sexes phéromones, il y a les phéromones sociales aussi, il y a toutes sortes de choses. Bon, moi, ma spécialité, c'est les substances de contact que les insectes ont sur leur cuticule et qui leur permettent de se reconnaître. Et ça, on a ça chez tous les insectes sociaux, quels qu'ils soient.
Oui, parce qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage dire qu'effectivement, il y avait une forme d'immunité sociale de ces colonies d'insectes. Et effectivement, dans une colonie, il faut bien être capable de reconnaître le soi du non-soi. Et c'est entre autres grâce à ce que vous décriviez, Anne-Geneviève Bannière, soit ces hydrocarbures cuticulaires, par exemple, chez les guêpes, ou les phéromones chez les fourmis. Anne-Geneviève Bannière.
L'immunité sociale, je crois que c'est Mathieu qui en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Je crois qu'il parlait plutôt pour une question, par exemple, de toilettage ou de. Vous voyez, par exemple, les termites ont une salive qui est antibactérienne, qui fait que sans cesse, ils vont nettoyer la colonie pour qu'elle ne soit pas infectée. Et ça, chez beaucoup d'insectes sociaux, c'est le cas, mais même chez des perce-oreilles, il y a quelqu'un de mon équipe qui travaille là-dessus. Donc l'immunité, c'est effectivement aussi quand même malgré tout prendre soin pour qu'il n'y ait pas de virus, de bactéries, de maladies qui arrivent. Voilà. Après, la reconnaissance du soi et du non-soi, effectivement, ça passe par les molécules de contact ou volatiles, pour moi plutôt de contact, que sont les hydrocarbures cuticulaires. Oui.
Vincent Albouy.
Oui, il y a des pratiques habituelles en apiculture. Par exemple, quand on rassemble deux colonies faibles, normalement, elles devraient s'entretuer, les abeilles, puisqu'elles ne se reconnaissent pas. On en fume avec une fumée qui a une très forte odeur, genre du laurier ou du thym, des choses comme ça. Ce qui fait que ça masque les odeurs individuelles et en quelques dizaines de minutes, les abeilles, en se frottant les unes sur les autres, refont une nouvelle odeur générale collective et la nouvelle colonie va avoir sa propre odeur et ça va de nouveau bien fonctionner.
Pour dire en tout de même encore un mot des phéromones et pour poursuivre un peu le reportage de tout à l'heure, c'est grâce aux phéromones, on l'a entendu, ces phéromones de piste, que la construction du nid peut être aussi cohérente. Écoutez ce qu'en dit Guy Terrola, justement, dans notre archive du jour. C'est un extrait du catalogue du CNRS Images, le titre du film Le secret des fourmilières.
Ce qu'on a également découvert, c'est que les fourmis ajoutaient une phéromone, une substance chimique, aux boulettes qu'elles prélèvent et qu'elles déposent ensuite. On se demandait quel pouvait être effectivement le rôle précis de cette phéromone, mais ce qu'on a découvert, c'est que cette phéromone allait gouverner toute la dynamique de construction et également, elle allait gouverner la croissance et la forme des nids. Tout repose en fait sur la dynamique d'évaporation de la phéromone.
La fourmi dépose du matériel de construction là où se trouve la phéromone. Or, plus il fait sec, plus la phéromone s'évapore vite, et donc moins les fourmis construisent de piliers. Les chambres sont donc plus grandes et conservent mieux l'humidité. Puisque le nid se transforme en permanence, il est toujours adapté à son environnement.
La suite, ça va être justement de comprendre un peu mieux les interactions entre les courants d'air, les gradients de température au sein d'un lit et comment ces éléments physiques vont également moduler les règles de construction des fourmis.
Voilà, Guy Terrola, extrait du film Le secret des fourmilières, extrait du catalogue du CNRS Images. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être un mot l'un et l'autre de ces phénomènes de construction des nids, des ruches, des colonies et de ce en quoi elles participent d'un phénomène d'auto-amplification, Anne-Geneviève Bannière?
Alors c'est ce que Pierre-Paul Grasset avait appelé la stigmergie, je pense.
Tout à fait.
Et effectivement, moi je suis pas spécialiste. C'est vrai que les Toulousains comme Monsieur Terrolaz étudient beaucoup ça. Hein, ils font des super travaux là-dessus. Mais cependant, chez les termites, effectivement, la construction d'une termitière est quelque chose d'extrêmement élaboré. Et on peut se rendre compte qu'elles construisent pas les galeries n'importe comment. Elles font en sorte qu'il y ait des aérations qui soient vraiment faites d'une certaine façon. Après, chez les termites, comme ça a été montré effectivement par Guy Terrolaz avec la phéromone là chez les fourmis, on n'a pas montré ça encore chez les termites. Mais je pense que les termites, ceci dit, recouvrent également leur galerie de leurs substances cuticulaires qui leur permettent de cheminer et de reconnaître vers où ils doivent aller. Après, stimulation de construction avec la phéromone telle qu'ils ont montré récemment, je pense pas que ça ait été vu chez d'autres espèces.
Je crois que c'est de Guy Terrolaz aussi qui écrivait en tout cas la coordination des tâches, la régulation des constructions ne dépendent pas directement des ouvriers ou des ouvrières, mais des constructions elles-mêmes. L'ouvrier ne dirige pas le travail, il est dirigé par lui. Vous êtes d'accord avec ce point de vue, Anne-Geneviève Bannière?
Je ne saurais dire. j'avoue que on va pas créer de grandes discussions. Je préfère pas donner mon avis, mais en tout cas, je pense que pour les termites, je ne crois pas que ce soit le cas.
Vincent Albouy.
Il y a une différence entre les abeilles et les fourmis dans la construction, c'est que les abeilles, il y a une construction collective. Elles font une sorte de rideau d'abeilles qui se tiennent les unes aux autres au moment où elles construisent les rayons. Donc il y a une communication entre elles, en quelque sorte, pour faire cette construction. Il y a aussi, j'ai pas souvenir de phéromones qui entrent en jeu pour la construction des rayons eux-mêmes. Par contre, pour la construction des cellules royales, oui, il y a de la chimie en jeu, puisque, en fait, la reine, par ses glandes, émet la fameuse substance royale qui a beaucoup d'effets sur la colonie, notamment ça inhibe le développement des ovaires des ouvrières, ça les rassure en quelque sorte, la reine est là, tout va bien. Et quand, avant l'essaimage, il y a une énorme explosion de la population à l'intérieur de la colonie, ce qui fait que la phéromone est très diluée, elle arrive moins en périphérie du nid. Mmh. Et à ce moment-là, les abeilles de la périphérie, les ouvrières de la périphérie commencent à construire des cellules royales qui vont donner les nouvelles reines qui permettront ensuite à la colonie d'essaimer. Donc on voit bien qu'il y a de la chimie qui régule aussi au moins certaines constructions.
Mmh. Oui, mais chez les guêpes aussi.
Hein. Chez Anne-Geneviève Bannière, oui.
Oui, parce que bon, je travaille beaucoup sur l'écologie chimique des guêpes à papier, vous savez, les guêpes polistes, celles qui viennent nous ennuyer pendant nos pique-niques l'été. Effectivement, justement, avec une étudiante en thèse là, en ce moment, et puis ma collègue Christina Lorenzi, on travaille sur l'odeur du nid et la façon qu'elles ont de construire, parce que vous savez, elles construisent les cellules une par une, donc au début, le nid est tout petit, il y a 2-3 cellules pour finir par 40-50 cellules, dans lesquelles après, donc c'est une seule fondatrice qui construit, et qui après va pondre ses œufs dans ces cellules-là. Et en fait, on est en train d'étudier effectivement l'odeur de ce nid, donc Martha, notre étudiante, elle a coupé des petits morceaux du nid en construction et elle a regardé l'odeur au cours du temps qui se renforce et elle a regardé aussi l'odeur au cours du temps quand il y a un parasite social qui arrive et l'odeur du nid change quand il y a le parasite social arrive au début avec son odeur et puis ce parasite social qui est très spécial, il est capable de mimétisme chimique donc il va mimer complètement l'odeur de son hôte, donc de la fondatrice hôte et donc le nid va avoir la même odeur, l'odeur du nid hôte. Mmh. Et puis quand quand le parasite va avoir sa descendance qui va émerger, eh ben à nouveau on va avoir une odeur un petit peu mixte. Donc vous voyez, c'est très compliqué effectivement la construction et l'odeur du nid. C'est suivant les espèces, suivant les conditions. Vous voyez, un parasite social peut aussi influer sur l'odeur du nid. Les insectes sociaux, c'est quelque chose d'assez complexe, qui n'a pas de normes, ni de rule, comme on dit en anglais.
Ni de centre opérationnel,
ni d'un centre opérationnel. Il y a plein d'exemples, et c'est ça qui est formidable chez les insectes sociaux. On peut en parler comme ça pendant des heures, parce que chaque exemple est un exemple quasiment unique.
Il nous reste malheureusement pas des heures, mais encore une petite dizaine de minutes. J'aimerais tout de même qu'on parle un peu justement de, parce que ça aide bien à comprendre, chez différentes espèces d'ailleurs d'insectes sociaux, les mouvements de groupe qu'il peut y avoir, soit pour les abeilles lorsqu'elles vont se nourrir, soit pour les fourmis lorsqu'elles partent chercher de la nourriture. On en a parlé une ou deux fois de ces phénomènes d'auto-amplification ou de boucle de rétroaction. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de comportements erratiques, et puis petit à petit, ces comportements erratiques pour finir par construire un comportement cohérent. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot, Vincent Albouy ?
Alors, chez les abeilles, c'est quand même assez... c'est pas erratique, puisqu'on a des... Pour ce qui est, par exemple, de la recherche de nourriture ou même la recherche d'un nouveau nid, on a des exploratrices qui sont généralement des butineuses expérimentées, donc des individus âgés, qui vont chercher et quand elles trouvent, qui vont communiquer l'information par la fameuse danse aux autres. Et à ce moment-là, il va y avoir soit si c'est pour la nourriture des butineuses qui vont aller exploiter la nouvelle ressource, soit si c'est pour le nid, l'essaim va se diriger vers l'endroit choisi. Chez les fourmis, c'est plus comme vous avez dit, c'est-à-dire que quand on regarde une colonie de fourmis, c'est un beau bazar. Mmh. On se rend pas compte. Alors des fois, je m'amuse à suivre une aile d'insecte ou un morceau d'insecte qui retourne au nid. C'est pas en ligne droite directe vers le nid. Hein. Ça avance, ça recule, ça va sur le côté, ça finit par arriver au nid, mais on se demande bien comment. Et si on a la patience de regarder un peu, on voit que ça passe d'un individu à l'autre. C'est pas le même individu qui fait le maître qui reste jusqu'à l'entrée du nid. Donc,
et puis que des individus repartent parfois dans le sens inverse. On voit qu'il y a beaucoup d'erreurs et de déconstruction.
Mais à l'arrivée, le morceau d'insecte arrive bien au nid. Donc ça marche.
Et comment est-ce que ça s'explique justement ? Comment est-ce qu'on explique qu'in fine ça marche malgré cette espèce de chaos généralisé ?
Pour l'instant on n'explique pas, on essaie d'expliquer, mais il y a les informaticiens et les roboticiens qui s'intéressent beaucoup pour faire des algorithmes à cette technique assez simple des... Par exemple, quand on programme un robot, tu déposes on disperse des boules dans une arène, et on met des petits robots et on lui dit à un robot comme truc, s'il y a deux boules, tu déposes ta boule à côté, mais si c'est quatre boules, tu vas plutôt là où il y a quatre boules, enfin voilà. Et puis avec des règles aussi simples que ça, on arrive à un tas unique au bout d'un temps plus ou moins long, et c'est paraît-il copier des fourmis. Mais là,
c'est la bio-entomologie ou l'informatique entomologique qui est une autre
discipline. Je dis ça sous toute réserve.
Anne-Geneviève Bannière, peut-être sur cette notion de boucle de rétroaction, de façon dont en amplifiant petit à petit des phénomènes et des dépôts de phéromones, on finit par obtenir une sorte malgré tout de mouvement cohérent dans le chaos généralisé.
Alors bon, ce chaos généralisé, c'est vrai que comme disait Vincent, je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, peut-être un peu plus chez les fourmis parce qu'elles ont des colonies très diversifiées. Je ne crois pas qu'on voit ça très souvent chez d'autres insectes sociaux. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, par exemple, ça a été montré chez les bourdons, quand ils vont d'une fleur à une autre et avec des fleurs artificielles pour aller suivre le chemin, pour trouver la bonne fleur dans laquelle ils vont trouver à manger. Il y a tout un jeu d'essais-erreurs, il y a un apprentissage qui est fait. Ça, il y a eu des gros travaux aussi sur les abeilles, par l'équipe de Martin Djurfa aussi. C'est beaucoup un jeu essais-erreurs pour arriver petit à petit à faire le chemin le plus court pour trouver la nourriture, par exemple. Donc, au début, je ne dirais pas que c'est un chaos. Je crois que c'est au début, ils n'ont pas cet apprentissage. Et puis après, l'apprentissage va se faire de mieux en mieux et ils vont aller de plus en plus vite vers la source de nourriture où la construction va se faire de plus en plus rapidement.
Je l'évoquais au tout début de l'émission, où il y a des études génétiques qui commencent à apporter leurs fruits. Qu'est-ce qu'elles disent, ces études génomiques ? Est-ce qu'on arrive à mieux comprendre précisément ces phénomènes d'intelligence sociale, Geneviève Bannière ?
Alors, ça, c'est très difficile. Oui, je sais qu'il y a des gènes qui seraient spécialisés, on va dire, pas vers la socialité, hein, mais plutôt vers des tâches, vers des formes de développement. Donc, on ne peut pas dire quand même que c'est le gène de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence collective. Hein. Mmh. Mais... par contre, effectivement, pour l'instant, la génomique est malgré tout pas si avancée que ça, puisque ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le génome entier de l'abeille ou d'autres insectes. Par contre, effectivement, il y a des gènes qui semblent réguler certaines fonctions, comme la fonction pour aller plus vite, on appelle ça le foraging, pour aller chercher vite de la nourriture. Bon, on sait quels gènes sont régulés, vous voyez des choses comme ça, les gènes pour la reproduction, on commence à bien comprendre, les gènes pour, pas le déterminisme des castes, mais ce qui va plutôt permettre certaines castes de se développer ou pas, oui, on commence à avancer, mais on en est au tout début.
On n'en est qu'au tout début. Dans les quelques minutes qui nous restent pour conclure, je vais vous reposer, mais un peu sous une autre forme, une question que je vous ai posée au début de cette émission. Au vu de la réussite écologique donc de ces insectes sociaux, comment expliquer que ce trait ne se soit pas retrouvé plus fréquemment dans la nature et qu'il soit finalement limité à juste quelques espèces, Vincent Albouy?
Moi, je pense, parce que la nature est tellement diverse qu'il y a plein de niches possibles, et il y a des niches qui ne sont pas exploitables par des sociétés parce qu'elles sont trop petites. Et donc, c'est là-dedans qu'il y a énormément d'espèces avec peu d'individus, finalement, comparé aux fourmis ou aux autres espèces sociales. Mais, par exemple, si on prend les charançons qui peuvent se développer dans un seul grain, il y a tellement de plantes qui font des grains que vous avez des milliers d'espèces de charançons possibles. Et les fourmis moissonneuses qui exploitent les grains, elles prennent les grains, elles les mangent. Enfin, bon, voilà, vous avez 2, 3, 4 espèces de fourmis moissonneux seulement. Donc la diversité du vivant aussi, c'est l'infinité des niches écologiques qui existent. Puis on pourrait parler, Geneviève l'a évoqué en passant, mais on pourrait parler de la fascinante histoire de tous ces parasites sociaux qui ont cassé le code, comme disaient Wilson et Oldeblair, et qui savent manipuler les manipulateurs.
Anne-Geneviève Bagnère, pour conclure sur le fait que cette organisation sociale finalement soit aussi restreinte au compte tenu de son succès écologique, comme on le mentionnait au début de l'émission.
Oui, bon, effectivement, en plus, elle est arrivée à des moments différents, hein, suivant les espèces. Il n'y a pas un moment où toutes les fourmis sont devenues sociales tout d'un coup, puisque les fourmis, au départ, proviennent d'hyménoptères, de guêpes hyménoptères, hein, il y a plusieurs millions d'années. Hein. Donc tout ça, c'est des chemins évolutifs qui ont été très très longs. Hein. Les termites, c'est pareil, hein, ils ont plusieurs centaines de milliers d'années. Donc, il faut que l'évolution n'a pas effectivement permis, puisque comme disait Vincent tout à l'heure, il y a tellement de diversité sur notre planète que il y a eu des niches qui ont été possibles et pas d'autres, et il y a eu des coévolutions possibles et pas d'autres. Donc, je pense que on en a le résultat, mais rien n'est fini. On n'est pas dans un monde fini, donc.
Peut-être un jour verra-t-on des colonies d'araignées pour le cauchemar de la majeure partie
ça
de l'équipe.
Déjà. Ça existe déjà. Il y a des toiles collectives.
Il y a des toiles collectives
d'araignées en Amérique centrale, il me semble.
Il y a des araignées pseudo-sociales.
Voilà.
Oui. Bon, les Anélosimus.
Eh bien voilà, vous allez faire des cauchemars à toute l'équipe de la méthode scientifique en vous remerciant tous les deux. Merci Vincent Albouy, merci Anne-Geneviève Bagnère, merci aussi aux collègues de France Bleu Touraine pour le duplex. Anne-Geneviève Bagnère, je rappelle, l'écologie chimique, le langage de la nature aux éditions du Cherche Midi, Vincent Albouy, histoire remarquable, les insectes et guide des curieux de nature en 150 scènes aux éditions de Lachaud et Niestlé. Je vous rappelle, prenez vos places pour le forum L'année vue par les sciences, c'est le 25 février. Puis un grand, grand, grand merci aussi, tout particulier aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous podcaster. 650 000 podcasts en janvier, un record, c'est du jamais vu. On vous aime. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique qu'on aime aussi. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Ville-France, Céline Lezenne, Mathieu Lefrançois, Milena Ellig à la réalisation, Raphaël Béziquian au droit d'auteur et Thibaut Germez à la technique. Demain, nous suivrons le chemin emprunté par les fourmis pour nous conduire revenir au cœur des forêts primaires, ou tout du moins de celles qui ne disparaissent pas. Comment survivent ces écosystèmes si complexes et si fragiles, menacés de disparaître totalement à cause de l'activité humaine dans quelques années? Dans quelques secondes, on enfile l'uniforme pour une semaine de LSD consacrée à l'armée par Perrine Kervran et Raphaël Kraft. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.